Vous écoutez RTL. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jean-Dominique Sénard et Bernard Poirette.
Il est 13h01 exactement, je vous rappelle, Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin, qui a été rejoint dans ce studio par Yannick Jadot. Bonjour monsieur Jadot.
Bonjour.
Pour les auditeurs, je précise, mais ils le savent, hein, bien entendu, vous êtes le candidat des écologistes à la présidentielle de mai 2017. Et Jean-Dominique Sénard a tenu à ce que vous soyez dans ce journal inattendu. Il va nous dire pourquoi dans un instant. Tout d'abord, je voudrais quand même revenir à vous, Jean-Dominique Sénard, et à ce que vous disiez au tout début dans votre autoportrait. Je voudrais que vous développiez, parce que ça veut tout dire de vous et sans doute de la façon dont vous dirigez Michelin maintenant. Quand Péchinet est victime d'une attaque d'Alcan, donc qui veut racheter Péchinet, c'est vous qui êtes chargé de ça. Et pourquoi ça a été si douloureux? Vous nous l'avez dit brièvement. Pourquoi ça a été terrible?
C'est terrible parce que dans ce genre de circonstances... Dans ce genre de circonstances, on est dans une ambiguïté effrayante. Au moment de l'événement, et on sort de l'ambiguïté juste après. Et la douleur que peuvent ressentir des équipes qui portent en elles des fiertés incroyables de générations de techniciens, d'ingénieurs, qui ont porté d'ailleurs à l'époque l'électrolyse comme étant une des plus belles technologies françaises. La fierté de toutes ces personnes... sans parler des conséquences sociales d'une telle opération qui ont été douloureuses, parce qu'il a fallu naturellement, contrairement à ce qu'on disait avant, n'est-ce pas, faire des opérations de restructuration. Et je me suis retrouvé face à une réalité humaine que je connaissais forcément, mais quand on la vit directement, vous savez, on la mesure totalement différemment. Une réalité humaine où des gens craquaient dans mon bureau, où la nuit, les gens m'appelaient, avaient perdu leur repère, se demandaient ce qu'ils allaient devenir, et c'était parfois d'une violence extrême. Donc il m'a fallu absorber ça pendant toute une année. Je dois dire que de temps en temps, c'était vraiment dur, je ne dormais pas beaucoup, mais j'ai tenu bon, parce que pendant cette année-là, j'ai jamais voulu que la ligne jaune soit franchie. À cette époque, je me souviens, j'ai démissionné 4 fois pendant cette année-là, en me disant que la frontière allait être franchie. Je n'ai pas voulu. Il s'agissait de sauver des personnes ou des principes. J'ai démissionné à chaque fois, on m'a repris, en me donnant raison. La dernière fois, je suis parti. Voyez-vous, cette douleur humaine, cette souffrance humaine, c'est quelque chose qui restera profondément ancré en moi et qui, en fait, a guidé un petit peu mes principes de fond depuis que j'ai connu ça.
Alors, il y a un autre principe, en fait, qui est valable chez Michelin, depuis que vous y êtes, en tout cas, parce que je précise qu'ensuite, c'est Édouard Michelin qui est venu vous chercher, oui. Qui vous a téléphoné, vous aviez pris quelques congés avec votre épouse, qui vous a accompagné d'ici aujourd'hui à RTL.
Tout à fait.
Vous étiez en Tanzanie, je crois, en Afrique. Oui. Il vous appelle, il vous dit, écoutez, vous pouvez pas, c'est bien joli, il est bête en Tanzanie, mais il faut venir bosser, vous venez travailler chez Michelin. Exactement. Et vous êtes devenu le premier non-Michelin de famille, à rentrer dans la nomenclatura, c'est ça.
Tout à fait, absolument. Bon, vous savez, c'est épisode absolument incroyable. De temps en temps, il faut savoir se laisser porter. Je ne connaissais pas Édouard Michelin. Il m'avait appelé un soir et au lieu de passer une demi-heure ensemble, on a passé 5 heures. Le lendemain matin, il m'appelait clairement en disant « Je veux travailler avec vous ». Voilà. Alors, je lui dis « Vous me laissez quelques jours ». Il me dit « Oh, pas beaucoup. Une semaine, peut-être ». Et au bout de 3 jours, nous étions avec Hélène, en effet, sous une tente en Afrique du Sud et les portables marchaient. Il a appelé, il a dit « Est-ce que vous avez pris votre décision ?» Et j'ai dit « Écoutez, oui, j'arrive. Voilà, j'arrive. » Voilà. Et en fait, ça s'est passé comme ça. C'est rocambolesque, mais finalement, là aussi, il y a des signes intéressants.
Jean-Dominique Sénard, pourquoi avez-vous voulu que Yannick Jadot, donc, qui est candidat écologiste à la présidentielle, soit avec nous dans ce studio aujourd'hui?
Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté d'être là. Le fond de la question, c'est finalement de pouvoir exprimer très simplement que les impératifs écologiques et environnementaux sont très partagés. Les hommes politiques l'apportent, vous l'apportez d'une certaine manière, et même, je dirais, de façon très, très intense. Mais je voulais aussi témoigner qu'il n'y a pas que les hommes politiques qui peuvent l'apporter, que les entreprises l'apportent. Et la passion, de l'innovation chez Michelin exprime depuis 125 ans une autre passion qui est celle du respect de l'environnement, qui d'ailleurs figure parmi les 5 grandes valeurs de respect du groupe. Et alors c'est très intéressant parce que aujourd'hui, nous nous retrouvons les uns les autres dans des réunions internationales comme la COP, COP21, COP22. Oui. COP22. Nous ne sommes pas croisés à Marrakech, mais nous y étions probablement à des moments différents. Mais on voit que évidemment le monde politique et le monde de l'industrie ou de l'économie se rejoignent aujourd'hui et convergent dans le même but. Ça, c'est un événement majeur. Ce n'est pas si récent que cela, mais ça apparaît maintenant avec beaucoup de force.
Yannick Jadot, comment percevez-vous le monde industriel, pour vous, candidat écologiste? Est-ce que si tous les patrons étaient comme M. Sénard, ce serait plus simple pour vous?
Ce serait plus simple, ce serait mieux pour tout le monde. Ce serait mieux pour la planète, ce serait mieux pour l'emploi, ce serait mieux pour la dynamique des territoires. Parce que ce qui est fort, me semble-t-il, dans de ce que j'en connais, de l'expérience Michelin, c'est que c'est évidemment un groupe international extrêmement puissant. Mais c'est aussi un groupe ancré sur son territoire. Pour avoir visité pas mal de PME, de start-up en Auvergne, elles sont liées, j'allais dire presque contractuellement, dans un objectif de territoire avec Michelin. Et puis surtout, il y a cette idée qu'aujourd'hui, il y a un vieux monde qui est le monde de l'ébriété en matière d'utilisation des ressources, qui est un monde d'incroyable gaspillage et qui est un monde aujourd'hui où, effectivement, dérèglement climatique, épuisement des ressources, maladies chroniques liées aux pollutions, conflits potentiels. On voit bien que si on ne sort pas de ce monde-là, on va tous avoir un avenir extrêmement sombre. Et l'industrie aussi. Ce qui est intéressant avec la démarche de Michelin, comme d'un certain nombre de petites et de grandes entreprises, c'est qu'elles ont compris que plutôt que de favoriser toujours un accès fort aux matières premières, y compris parfois en soutenant des dictatures dans des pays où, vous savez, l'Europe est très pauvre en ressources naturelles aujourd'hui.
Ça, c'est sûr.
Donc il faut aller dans d'autres pays, quand c'est les pays du Sud, généralement ça sert rarement la démocratie. Donc de moins utiliser de ressources. Quand on fabrique, de moins polluer, de moins consommer d'énergie. C'est aussi bon pour le compte d'activité et c'est bon pour l'environnement. Quand on consomme, avoir des produits qui durent plus longtemps, où il y a moins d'obsolescence programmée, des produits qu'on partage. Et après, ne pas jeter, mais plutôt aller vers la réutilisation, le réemploi, la réparation, le recyclage. Ça, c'est l'économie de demain. Et il y a des entreprises qui prennent ce chemin-là, et c'est extrêmement positif, plutôt que de trop souvent, il y a aussi un monde économique qui essaye de garder la rente du passé, allié avec des forces politiques qui visent la nostalgie, plutôt que l'économie du 21e siècle.
Alors c'est tellement intéressant qu'il faut que vous restiez là, Yannick Jadot, ne bougez pas, il faut qu'on s'arrête un instant, on a des problèmes de pendule, mais on continue sur ce thème dans un instant. Il est 13h08, vous écoutez le journal inattendu de Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin et son invité, Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin. Monsieur Sénard, très concrètement, oui, chez Michelin, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement?
Alors, je vais prendre deux exemples et vous allez, je pense, capter le message. C'est nous qui avons inventé les premiers pneus verts. À l'époque, le mot n'existait pas, c'est nous qui l'avons inventé, en 90-92. C'était une nouvelle technologie qui est absolument révolutionnaire à l'époque, problème de matériaux, je ne rentre pas dans tous les détails, mais qui faisait que brutalement, la consommation d'énergie d'un véhicule grâce à ses pneus diminuait sensiblement. Et oui, par conséquent, les émissions de
frottement et des choses comme ça,
carbone dans l'atmosphère. Je vous rappelle que quand vous faites le plein de votre voiture, une fois sur cinq, c'est à cause de l'énergie nécessaire pour vos pneus. Donc je ferme la parenthèse, c'est pas neutre. Donc nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de l'impact dans le monde du transport, de notre activité. Alors, en 90, nous avons créé ces pneus verts. Aujourd'hui, nous sommes les leaders dans cette technologie, plus de 20 ans après. Et nous sommes très fiers de l'être et nous avons pris une avance considérable. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles viennent nous rechercher à cause de cette particularité des performances du pneu Michelin, qui est justement une efficience énergétique absolument formidable, qui leur épargne d'ailleurs des investissements par ailleurs pour atteindre la réglementation qui les concerne.
Oui.
Deuxième exemple, nous avons décidé l'année dernière, et j'en suis très fier, parce que nous avions un peu perdu finalement des sources d'EVA dans le groupe, nous avions pratiquement plus de plantations. C'était quand même l'origine du groupe.
C'est les arbres
même si ce n'est pas la seule matière qui rentre dans les pneus, puisqu'il y en a 200 matières qui rentrent dans la constitution d'un pneu. Mais nous avons décidé de prendre en main, avec un accord mondial avec le WWF, ONG que vous connaissez bien, l'exploitation de 80 000 hectares en Indonésie, tenez-vous bien, de forêts qui étaient plus que menacées de déforestation, qui est d'ailleurs en train de brûler. Et nous avons décidé de prendre en main cet immense territoire pour replanter des EVA pour la moitié du terrain et ensuite sur le reste replanter les arbres d'origine afin de recréer cet ensemble écologique et économique incroyable. Au passage, on va créer 16 000 emplois, ça n'a de rien, c'est considérable. Et du coup, En faisant cela, on redonne finalement la raison d'être de Michelin et toute la fierté des équipes du groupe dans le monde qui se retrouvent à travers ces actions qui, au total, bien entendu, fourniront de l'EVA et du caoutchouc naturel pour Michelin, mais surtout, démontreront que l'on peut faire de l'industrie, on peut développer, je dirais, notre économie, notre croissance, sans heurter l'environnement, et qu'au contraire, il n'y a aucune espèce d'opposition entre le développement de l'économie, la croissance, la mobilité et l'environnement.
Je me trompe, Yannick Jadot, ou vous croyez entendre parler les anges, là?
Non, mais c'est quand même extraordinaire. J'entends la réalité.
Un patron industriel dire
mais
ça.
Justement, pardon. À la fois, vous voyez que c'est extrêmement intéressant, parce qu'à la fois, ça rentre dans l'éthique d'un groupe industriel, mais c'est son intérêt. C'est ça qui est intéressant. Vous savez, les grandes ruptures, les grandes transformations pour la protection de l'environnement et pour la création de l'emploi, elles se font pas uniquement par philanthropie. Ça doit être l'intérêt de l'économie. Et ce qui est extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une partie des acteurs économiques, petits et grands, qui ont compris cet intérêt-là. Quand même les groupes, et vous savez à quel point je me bats par exemple contre le diesel favorisé par PSA ou par Renault. Mais en même temps, quand PSA dit « la voiture de demain, c'est une voiture qui sera intelligente, peu polluante, c'est une voiture qu'on partage ». Et à partir du moment où c'est une voiture qu'on partage, c'est pas une voiture dont on essaie forcément qu'elle soit obsolète le plus rapidement possible pour qu'on en rachète une. C'est une voiture dont il va falloir être capable de nouveau de la réparer, de changer une pièce quand elle ne fonctionne pas, parce que du coup, ça va allonger sa durée de vie. Donc on a ça partout. Et il y a même des pays aujourd'hui. Je vois la Suède. La Suède est en train de dire, nous allons faire, sous la pression des écologistes, nous allons faire une loi. Et quand vous allez faire réparer un certain nombre d'éléments qui font votre vie, depuis votre vélo, vos chaussures, votre machine à laver, quand vous allez la faire réparer plutôt que de la jeter, eh ben vous allez avoir un crédit d'impôt qui va rembourser 50% des frais de main-d'œuvre. Et la réparation sera moins taxée en matière de TVA que quand vous ne réparez pas. Et ceux, les producteurs qui, au contraire, jouent l'obsolescence, quand vous achetez un téléphone, que votre batterie elle est soudée à votre téléphone, vous ne pouvez pas la réparer, cette batterie.
Il faut changer l'appareil.
Et donc, d'accroître la fiscalité quand ça nous fait mal, de la baisser quand ça nous fait du bien pour l'environnement, pour l'emploi. C'est un enjeu extraordinaire de relocalisation de l'économie, de faire en sorte que les entreprises travaillent ensemble. Et il y a plein d'exemples sur tous nos territoires. Malheureusement, on n'en parle pas assez souvent. On parle de ces industries qui parfois meurent de ne pas savoir se transformer. On ne parle pas assez des industries qui créent de l'emploi parce qu'elles savent se transformer.
Encore un petit mot sur ce thème.
Parce je
veux parler de la politique sociale.
Bien sûr, je rebondis fondamentalement sur ce refus de l'obsolescence programmée. Je vais vous donner juste un exemple parce que c'est encore une de mes grandes frustrations. Aujourd'hui, il y a des réglementations en Europe sur les pneumatiques et qui vous disent, quand vous voulez acheter un pneu, vous avez la catégorie A, B, C, D, E, acceptable pour le marché, etc. Les autres ne l'étant pas. Très bien. Sauf que les mesures qui sont faites sur les performances de ces pneus sont faites quand ils sont neufs.
Oui.
Et comme il dirait M. de la Palice, le lendemain du jour où vous montez ces pneus sur votre voiture, ils ne sont plus neufs.
Oui.
Or là, le monde change. Parce que lorsque le temps passe, vous voyez les performances, et notamment les performances écologiques des pneus, se dégrader de façon très différente en fonction des marques. Et je vais vous dire, un peu de publicité, pardonnez-moi, mais que les pneus Michelin de ce côté-là sont extraordinaires, parce que jusqu'à la fin de leur vie, ils ont toutes les performances. Mais c'est très
c'est
important.
C'est aussi les particules, les pneus. Hein. On parle toujours des carburants, c'est aussi les particules.
C'est très important. Parce que si vous jetez vos pneus trop tôt, parce que vous considérez qu'ils sont déjà trop usés, etc., c'est dramatique pour la nature, la matériau, et puis j'insiste, pour les questions de sécurité des consommateurs. Mais c'est insensé de penser qu'aujourd'hui, il y a en Europe des pneus qui sont en vente parce qu'ils sont acceptables quand ils sont neufs et qui, quelques mois plus tard, sont dangereux pour la circulation.
Un dernier mot, monsieur Jadot.
Il y a un projet d'un énorme incinérateur à Ivry, de changer l'incinérateur Sitcom.
Et on le voit en passant sur le périph'.
Alors l'idée, c'est de le changer. C'est 2 milliards d'investissements publics pour toujours absorber et essayer de brûler le maximum de déchets. Il y a un projet porté par plein d'associations qui disent « Et si on faisait de la réutilisation ? Et si on faisait de la ressourcerie, du recyclage ? On économise 2 milliards d'euros ?» Et en plus, on crée beaucoup plus d'emplois. C'est ça le combat d'aujourd'hui. Est-ce qu'on continue à financer le vieux monde, ou est-ce qu'on investit sur le futur en créant des emplois et en protégeant la planète ? L'histoire de l'incinérateur d'Ivry est remarquable de ce point de vue-là.
On a bien compris que votre réponse est évidente, hein, Monsieur Jadot.
Je serai avec les manifestants cet après-midi,
ce sera avec les
à la banque à côté de la Bibliothèque nationale pour manifester contre ce projet.
Merci beaucoup d'être passé à RTL, Yannick Jadot. Yannick Jadot, donc candidat écologiste à la présidentielle du mois de mai. On poursuit, bien entendu, le journal inattendu de Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin. Il est 13h18. Au-delà de l'écran, là, on va essayer de parler du guide rouge Michelin, parce que c'est un autre aspect de cette entreprise protéiforme. Et Dieu sait que c'est peut-être grâce au guide rouge, plus encore que par les pneus, que Michelin est connu dans le monde entier. Et puis aussi, quand même, il faut parler de la politique au sein de l'entreprise, parce que moi, j'ai appris quand même, Monsieur Sénard, que vous encouragez tous vos salariés à faire de la politique.
Oui.
Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise.
Mais c'est d'autant plus vrai.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jean-Dominique Sénard et Bernard Poirette.
Monsieur Sénard, le président de Michelin, il nous reste 5 minutes, Monsieur Sénard, pour parler du guide rouge avec un reportage fait à Hong Kong et pour parler de votre volonté à vous, le patron de Michelin, que vos salariés, à Clermont ou ailleurs, s'engagent dans la vie publique, même dans la vie politique. Pourquoi ? Brièvement, pourquoi ?
Parce que je pense que s'occuper de la vie de la cité est une activité extrêmement noble. C'est un peu peut-être à contre-courant de l'opinion publique aujourd'hui, je pense le contraire. J'ai été moi-même, quand j'étais plus jeune, élu modeste conseiller municipal à Saint-Rémy-de-Provence. Je faisais les trains de nuit, je sais ce que c'est que, je dirais, la difficulté du sujet. L'idée, c'est que fondamentalement en France, il y a un phénomène qui est peu connu, qui n'est pas une inégalité devant le suffrage universel, vous pouvez voter comme moi, comme tout le monde, c'est une inégalité devant la capacité à se présenter devant le suffrage universel, et c'est beaucoup plus grave parce que c'est peu connu. Quand vous êtes fonctionnaire, et j'ai rien contre les fonctionnaires, mon père en est issu, c'est pas le sujet, mais quand vous êtes fonctionnaire, vous avez un statut qui vous protège, qui vous permet en détachement de partir faire des campagnes, d'être élu, de revenir à tout moment, battu, gagnant, oui, etc., en conservant vos avantages sociaux dans la durée, votre retraite, etc.
Ce n'est pas le cas dans le privé.
Aujourd'hui, la représentation nationale, même territoriale, j'allais dire, ne reflète pas la composition de la société française telle qu'elle est. Il y a un déséquilibre que je souhaite rééquilibrer. Je ne veux pas tout changer. Je ne veux pas déséquilibrer dans l'autre sens. Je souhaite simplement que les salariés du secteur privé se sentent fiers de pouvoir agir, avoir la même liberté de se présenter et de se sentir enfin digne et reconnu, parce que jusqu'à présent, dans le secteur privé, un salarié qui a une vocation de s'occuper des affaires publiques se dit « je vais être suspecté de tout un tas de choses horribles, oui, et en plus la réputation du monde politique n'étant pas encore glorieuse, qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Il faut arrêter ça. Et donc la charte chez Michelin consiste à dire « toute personne qui voudrait occuper des postes publics, d'électifs, à haut niveau, parlementaire, grande ville, éventuellement région, etc., bénéficiera de l'équivalent du statut de la fonction publique.
Super. Alors ça, c'est tout à fait... Je crois que vous êtes sans doute peut-être le seul ou pas loin d'être le seul à faire ça en France.
Alors je pense que d'autres collègues le font peut-être plus discrètement. Moi, j'ai souhaité le rendre public pour que ça permette éventuellement un mouvement de plus grande ampleur d'arriver.
Alors, on va consacrer les 3 dernières minutes quand même au guide Michelin, hein, oui, le petit guide rouge. Le guide Hong Kong-Macao vient d'être lancé. Absolument. Là-bas à Hong Kong. Et à ce propos, on a le reportage de notre correspondant Philippe Dova. On l'écoute.
Malgré ses nombreux restaurants et sa cuisine réputée comme l'une des meilleures de Chine, Hong Kong ne faisait pas partie des hauts lieux gastronomiques en Asie. L'arrivée du chef Bibendum en 2008 a très rapidement changé la donne. Jacques Boissier, PDG de Classic Fine Foods.
Le guide Michelin, au moment de son lancement, a énormément apporté à l'industrie de la restauration à Hong Kong. Ça nous a amené des chefs de très bon niveau. Ça a tiré vers le haut l'ensemble des restaurants locaux.
Lancé début novembre, le guide Hong Kong Macao 2017 comporte 79 restaurants étoilés. Les critères d'attribution sont, d'après Michelin, les mêmes qu'en France. Et pour Nicolas Boutin, chef du restaurant Épure, être parmi les nouveaux étoilés est une consécration.
C'est vraiment un Graal. Michelin, c'est la Bible pour nous en tant que cuisiniers. C'est toute notre vie, finalement. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. C'est vraiment une référence pour moi.
Une référence et un effet immédiat sur les réservations.
C'est un impact énorme. D'un coup, une journée après, on remplit le restaurant automatiquement. Hein.
L'excellence hongkongaise est également récompensée. Dans son restaurant Beau Innovation, Elvin Leung sublime la cuisine chinoise contemporaine et fait partie depuis 2012 des 6 chefs 3 étoiles de la ville.
3 étoiles, c'est comme gagner un Oscar. C'est un tout petit club. C'est un honneur d'en faire partie. On n'y entre pas par piston, mais grâce à son mérite, je suis très fier d'en faire partie.
La sélection fait la part belle aux restaurants locaux, mais elle est loin de faire l'unanimité auprès des connaisseurs hongkongais comme Deborah Luo.
Pour de nombreuses personnes, je pense que c'est une bible gastronomique. Mais pour moi, c'est juste un outil d'information. La plupart des restaurants sont des restaurants haut de gamme. Les Hongkongais ont beaucoup d'autres choix locaux. localement. Les sélections du guide Michelin sont inaccessibles pour les gens modestes.
Malgré tout, le guide alimente la passion de la jeune femme au point de susciter une vocation chez elle.
J'adore la nourriture. Je ne connais pas les critères pour devenir inspecteur, mais je serais très fière si j'avais l'opportunité de le devenir.
Les critères, comme le nombre d'inspecteurs, restent des mystères bien gardés par Michelin, un gage de sérieux pour le consultant Francis Gouten.
On a toujours essayé de savoir qui c'était, on ne le sait pas, mais je pense que Michelin en soi a une légitimité. C'est une forme de reconnaissance. Il a commencé à avoir énormément de concurrence. Michelin doit prendre une place de leader en Asie avant d'être mangé par toutes ces petites associations qui décernent des prix.
Pour cela, la marque clermontoise met le turbo en Asie. Les guides 2017 sont désormais disponibles en version numérique. Ces derniers mois, les éditions Singapour et Séoul ont vu le jour. Depuis septembre, à Shanghai, le petit livre rouge du chef Bibendum a remplacé celui du grand timonier. Une révolution culinaire cette fois-ci et une nouvelle guerre des étoiles dans l'empire du milieu.
Jean-Dominique Sénard, à vous les 30 dernières secondes de l'émission, c'est bien normal. Le guide, c'est aussi important que les pneus ou pas?
Ah, mais c'est la raison d'être du groupe, il faut être clair. Rappelez-vous que les fondateurs qui étaient géniaux, fondateurs de cette entreprise, ont créé les pneus et en même temps le guide, qui était à l'époque un guide des garages. C'était le principe du service qui allait avec le produit. L'aide au voyage, l'aide au déplacement, etc. C'est génial. Ça continue aujourd'hui au 21e siècle et pour tout vous dire, la révolution numérique va nous aider à déployer ça massivement. Alors c'est vrai, c'est un ambassadeur formidable. Pour moi, je dois reconnaître, quand je discute avec les dirigeants chinois ou d'autres pays, au Brésil et ailleurs, le guide est une introduction extraordinairement agréable. Voilà. Et donc, nous allons continuer parce que nous sommes une référence mondiale. Cette référence porte la marque, elle est totalement assimilée à l'excellence de Michelin. Et pour nous, c'est un avenir formidable.
Et en tout cas, merci Monsieur Sénard parce que vous continuez de fabriquer de formidables cartes routières en papier, sans lesquelles je serais définitivement malheureux. Perdu. Merci beaucoup d'être venu au journal inattendu, Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin, et longue vie à votre entreprise qui est quand même remarquablement originale et puissante. Merci, bon week-end à vous.